Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment.
Témoignage. Parti pris. Coup de gueule. Bienvenue dans Chronique d'un quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.
Un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal.
Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Dans le rugissement d'un moteur, il avait tout perdu. Et il devint un homme vidé, consumé, ravagé. Un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici, dans ce lieu maudit, qu'il réapprit à vivre.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique d'un quadra, le podcast qui décomplexe les sujets complexes. Et bien vous savez quoi? Et bien heureuse surprise, j'avais dit que le précédent épisode serait le dernier pour 2023. Et bien comme vous le voyez, et bien j'avais menti, donc me revoilà sur les ondes, me revoilà dans vos oreilles, me revoilà dans Deezer, Spotify, Apple Podcast et je ne sais quoi d'autre. Et m'est venu un sujet, et bien à l'occasion du repas de Noël. Voyez-vous ça, cher quadra? Alors je me parle à moi-même, c'est le début de la schizophrénie. Et c'est de là que m'est venue cette thématique qui rentre bien en fait dans ce volume 4 qui est Arpenter le chemin. Et comment on arpente le chemin, messieurs et mesdames, si on ne maintient pas un code de valeur, une éthique personnelle, hein? Je vous pose la question et nous allons essayer, non pas d'y répondre, mais de travailler ce questionnement-là du code de valeur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important d'en avoir? Et pourquoi, dans un contexte sociétaire comme le nôtre aujourd'hui, il est d'autant plus important de se poser la question de son code de valeur personnel, voilà. Donc, comme il est de coutume depuis quelques épisodes, je refais un point sur l'activité, l'aventure littéraire de Chronique d'un quadra. N'oubliez pas, le tome 1, ceci n'est pas une histoire d'amour. Donc, tome 1 des Chroniques d'un quadra, version littéraire, débarque sur Amazon le 16 janvier 2024, voilà, au format Kindle, donc c'est-à-dire e-book, et au format livre broché, et c'est pas parce que je l'ai fait, mais je trouve que c'est un bien bel objet. Donc le format broché est à 18€, et cela fait 367 pages exactement, donc ne vous fiez pas à ce qui est marqué sur Amazon qui dit 331, il y en a 367, et le e-book est à 10€, tout ça est fabriqué avec le cerveau et les petits doigts de votre quadra préféré. Donc voilà, j'en faisais un point là-dessus, et pour ceux et celles qui voudraient précommander l'ebook, et ben le lien est disponible en description de cet épisode et aussi en description du podcast sur Instagram, Facebook et même sur TikTok, dites-moi. Voilà, donc ça c'est le côté auto-promotion. Ben oui, en même temps, hein, comme je vous l'avais déjà dit, j'y ai passé du temps, même si je souhaite pas conquérir la France entière, ni on va dire le domaine littéraire français, cet effort pour que ça ressemble à ce que vous aurez entre les mains, et ben ça a un prix. Voilà, donc parenthèse refermée, et on va travailler sur cette idée. Non, alors j'ai mal commencé, pour ceux et celles qui sont en vacances, on va pas travailler, mais l'idée de réfléchir, l'idée de se poser et d'écouter ce podcast, ben c'est une forme de travail et effectivement non rémunéré. Donc, code de valeur et maintien de celle-ci ou de ce code de valeur, de celui-ci. Alors, le point de départ, il est très simple. Voilà, donc sans citer des noms, sans non plus impliquer des personnes de mon entourage, mais cela fait un certain temps déjà, donc ça je l'avais remarqué, donc vous verrez que cette notion de code de valeur, dans le plan qui est le mien, hein, c'est-à-dire un vague brouillon de 3 lignes, je le développerai selon 3 axes, en relation amicale, dans l'éducation par rapport à nos enfants, pour ceux et celles qui en ont, et en amour, voilà. Donc, le point de départ, donc, je l'ai déjà remarqué, notamment dans des relations amicales, dans le contexte professionnel, et j'ai pu, désormais, voilà, je rajoute le contexte familial à cette chose-là, et je remarque que quand on décide de se tenir à une certaine forme, alors ça je l'avais développé dans le volume 3, ça s'appelait la direction, dans une certaine forme de direction où on se fixe des buts, des objectifs et un rythme de vie qui va être composé de séances répétées de sport, d'un certain style vestimentaire, et qu'on va poursuivre en fait ce cheminement en l'adaptant aux films que l'on voit, à la musique que l'on écoute, les gens que l'on fréquente. Donc ça veut dire que on va mettre en place une certaine, on va dire un certain socle de pensée et le dérouler de manière uniforme pour obtenir une certaine forme de cohérence. Donc à partir de ce moment-là, l'on va dégager quelque chose de l'extérieur qui, dans un premier temps, comme j'avais expliqué dans un épisode de podcast, au niveau professionnel, peut être considéré comme, voilà, ça c'est ce qu'on m'avait fait remarquer, donc c'est-à-dire trop sûr de moi, trop pédant, et à un moment donné que je peux représenter, voilà, ça m'a été dit, hein, que je peux représenter le mâle de 40 ans dans la séduction. Donc, ça va poser un problème, non pas à la société, mais pour les gens qui sont pas au niveau. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, j'ai été attaqué à ce niveau-là. Au niveau amical, dans, voilà, embrassant les uns et les autres, j'ai pu remarquer aussi, et ça c'est vous que ça concerne, messieurs, que là où certains n'arrivaient pas à séduire, essayaient, voilà, de me dénigrer sur place pour mieux séduire, et du coup c'était l'inverse qui se passait. Voilà, c'est donc encore une fois une certaine forme d'attaque sur ce que la personne va représenter. Et bien entendu, dans le contexte voilà, d'un repas de famille, autant vous dire que c'était l'équivalent, parce que alors, je ne l'ai pas vécu, je fais juste un parallèle sur l'actualité, bien entendu, c'était l'équivalent de la centaine de missiles reçus par Israël, voilà, mais en peu de temps. Voilà, ça arrivait de tous les côtés, et on m'a invité aussi à danser avec les névroses de chacun et de chacune, en fait. Donc voilà, j'étais invité régulièrement dans un triangle de Cartman personnel, et tout se déroulait sous mes yeux, donc c'est à ce moment-là où il faut avoir une certaine forme de réserve, de rigueur, savoir où est sa place, et j'ai passé en fait mon temps à remettre les gens à leur place, tant en termes de positionnement que de posture, et ça c'est épuisant, voilà. Et effectivement, si je me suis permis de faire ça, c'est parce que j'ai ma posture, j'ai réfléchi en fait sur un ensemble de choses qui permettent, on va dire, de vivre dans un foyer en harmonie, chacun à sa place. Les enfants à leur place d'enfant, les adultes à leur place d'adulte, les professionnels à leur place de professionnel. Et effectivement, moi, ce que je peux constater, alors c'est pas que dans la mienne, hein, bon, la mienne a ses névroses, comme d'autres familles ont d'autres névroses, mais effectivement, chacun n'est jamais à sa place et chacun se mêle un peu des choses qui ne les concernent pas. Et quand ils se mêlent de ces choses-là, ils prennent un postulat qui va être forcément celui du sauveur, puis si après on demande à la personne de se remettre à sa place, elle va se positionner en mode victime et vous faire prendre le rôle du bourreau et ainsi de suite, et on n'en sort jamais en fait. Donc voilà. Donc ce cas de figure-là m'a invité à réfléchir à ce que moi j'entreprends au quotidien, et à ce qui manque aujourd'hui aux gens de manière générale, c'est-à-dire un code de valeur, une éthique personnelle, et maintenir ce code de valeur quoi qu'il en coûte. Voilà le point de départ. Et on n'oublie pas également que quand dans ces constats que j'ai faits, que ça soit amical, familial, professionnel, si je suis attaqué, c'est non pas pour moi, c'est plutôt sur ce que je représente, et ce que je représente, c'est ce que les gens ne sont pas ou aimeraient être. Voilà, alors attention, quand je dis ça, je dis pas que je suis le modèle de l'humanité, comprenez, je dis juste que pour, par exemple, certains hommes qui sont éloignés de la séduction, j'ai pas dit que j'étais, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, je sais quand même quelle est ma place, j'ai pas dit que j'étais, Hitch, l'expert en séduction, je dis juste que le travail que je fournis, voilà, au quotidien, donne des résultats qui pour moi me satisfont, voilà, donc c'est mes résultats, c'est pas les résultats des autres, et effectivement, pour les gens qui cèdent à la facilité et qui ne veulent pas faire ces efforts, il est plus facile de se trouver une excuse et d'attaquer les autres. Donc ce sont, donc la traduction, c'est que souvent, quand on se fait attaquer de toutes parts, c'est que ce qui va prédominer, ça va être une certaine forme de jalousie, une certaine forme d'identification projective, voilà, donc on va projeter sur l'autre ce qui ne va pas chez nous. Donc traduction, les trois quarts du temps, les gens qui vous attaquent sont des gens qui ne sont pas heureux. Voilà, donc ne vous fiez jamais au statut social, au revenu, voilà, parce que bien entendu, c'est pas parce qu'on gagne très bien sa vie et qu'on est en couple qu'on est forcément heureux. Voilà, gardez ça en tête. Et je continue aussi sur ce thème du bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose de constant. C'est comme le malheur n'est pas constant. Donc on va essayer dans notre vie d'avoir plus de moments heureux que de moments malheureux, mais on ne peut pas tout le temps être heureux. La seule personne qui est heureuse tout le temps, c'est un drogué. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les paradis artificiels. C'est pour ça que ça porte bien son nom, ce côté paradis. Donc on va définir ensemble, pourquoi on parle de code de valeur. Donc déjà, d'où ça vient, en fait. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un code ? Donc, si on dit code, on pourrait très rapidement penser à code de la route ou code civil. Voilà. Donc, effectivement, si on définit ce terme... Oui, moi, j'aime bien définir les choses d'entrée de jeu. Voilà. Donc, souvent, mes étudiants me regardent parce que je passe mon temps sur la sémiologie, la sémantique. Mais c'est important de savoir de quoi on parle et quel est le sens des mots, en fait. Donc, le code, c'est un ensemble de règles. Voilà. Et cet ensemble de règles va permettre à un système de fonctionner. Donc le code de la route, c'est un système de règles qui va permettre au système routier de fonctionner et que les gens ne meurent pas sur la route. Voilà. Donc on respecte un système de règles qui fait que l'ensemble fonctionne. Donc le code civil, comme on le dit, civil, voilà, il y a le côté citoyen en fait, civilité, ça va permettre aussi le code civil de pouvoir vivre en société. Voilà. Les uns et les autres. Donc la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Voilà, c'est un petit peu comme ça que fonctionne cette notion de code civil. Code civil, voilà, on va faire un lien avec l'épisode précédent, que l'on doit à Napoléon. Voilà. Donc contrairement à ces films de la déconstruction, notamment le dernier film de Ridley Scott, et tout ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire écrits et voulus par nos crétins de l'éducation nationale, parce qu'on va le dire, voilà, le programme qui est enseigné donner aujourd'hui à nos enfants est une relecture pleurnicharde de l'histoire où on ne fait que baisser la tête. Donc ça, je l'avais déjà dit. Donc oui, faire ça, c'est être d'un crétinisme absolu. On n'est plus dans l'objectivité des faits. Voilà, donc... Tiens, c'est à peine, je regarde, 12 minutes de rec, il a déjà envoyé un missile sur l'éducation nationale. Donc, ce code de valeur, parce que là, on va parler les valeurs, qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? Donc, la valeur, c'est quand on va le quantifier pour un objet, un produit, un service, c'est que cette chose-là peut coûter ou peut être, si on reprend l'exemple d'avant, on va dire la monnaie, peut être troquée contre quelque chose. Donc, le code de valeur, donc c'est-à-dire que la valeur de quelque chose va être le prix ou le coût ou ce qu'on estime de cet objet, et les valeurs que l'on va avoir ça va être, on va essayer de le dire de manière... on va dire, en respectant la langue française, donc ces codes, nos valeurs, ce sont des préceptes de vie, c'est des choses qui pour nous sont importantes. Donc, je vais vous donner un exemple, faire du sport, voilà, quotidiennement, peut être une valeur pour certains ou certaines, une valeur importante, voilà. Ils n'imaginent pas leur vie, pour eux c'est important, leur vie fonctionne comme celle-là, donc ils vont mettre dans leur code de valeur de faire du sport, ne pas fumer, ne pas boire, il y a énormément de choses, voilà, donc plus, il n'y a pas de, comme on va parler de code de valeur personnelle, c'est vous que ça concerne. Après, bien entendu, on va retrouver des choses qui nous sont héritées sociétairement d'avant, voilà. Donc si on prend l'exemple du code de valeur chevaleresque, ou du code chevaleresque, donc dans la chevalerie, il y avait les questions d'honneur. L'honneur est une valeur. Voilà, l'honneur, avoir de l'honneur, où on a bafoué mon honneur. L'honneur, ça vient avec la réputation, ça vient avec ce que l'on projette vers les autres, en fait. L'honneur est important. Donc, à l'heure, on va dire, bientôt 2024, à l'heure où on peut entendre que on n'en a rien à foutre de la vie des uns et des autres, ben non, on vit en société, c'est important. Regardez dans l'exemple féminin, posez-vous la question, mesdames, ou répondez en MP, ou envoyez des messages, mais je sais que vous serez d'accord avec moi. Généralement, une femme qui couche très jeune, au niveau de l'honneur, son honneur est atteint. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire qu'elle n'a pas d'honneur. Un homme, à l'inverse, un homme qui, par exemple, va tourner les talons dans une confrontation, on dira qu'il n'a pas d'honneur non plus. Voilà, donc ce côté de réputation-honneur, voilà, ça fait partie des valeurs. C'était dans les codes chevaleresques. Parce qu'il y a aussi cette idée de comment on peut driver, comment on peut amener des gens à se battre pour une cause. Eh bien, il faut que la cause... elle soit que là, oui, on peut dire vectrice, oui, ou qu'elle peut porter. Allez, j'étais pas sûr du terme. Il faut que cette cause, elle puisse véhiculer, c'est mieux. Qu'elle puisse véhiculer, voilà, des valeurs nobles, voilà, de haute valeur pour que l'individu se batte pour cette cause et meure pour cette cause. Donc c'est pour ça que, en y regardant sur le code de la chevalerie, il y a l'honneur, le courage et la loyauté. Et ce code, donc si on regarde l'honneur, le courage, c'est quelqu'un, quand on va définir quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un, alors faites attention avec le distinguo, le courage ne va pas avec l'absence de peur. Parce que souvent on se dit, ben, quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Non, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui sait gérer la peur et continuer à avancer. C'est pas la même chose en fait. Voilà. Donc faites attention avec cette notion de sans peur et sans reproche. Donc quelqu'un de courageux, c'est que malgré l'adversité, il va relever le défi. Voilà. Donc prenons un exemple à la salle de sport, un sportif de haut niveau. Donc quand il répète des séances de sport les unes à la suite des autres, à un moment donné, le corps a mal. Donc l'information du mal donnée par son corps, il l'a. Il ou elle l'a. Mais à un moment donné... il ou elle va poursuivre l'effort. C'est ça, le courage. dans la notion d'effort. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont mal comme nous. Sauf qu'ils vont aller au-delà. Et c'est pour ça aussi que le sportif de haut niveau, dans ce qu'il ou elle réalise, amène une sorte de fascination pour le citoyen, pour le spectateur moyen, qui lui n'a pas été au-delà de cette forme de courage. Donc on a parlé d'honneur, de courage, la loyauté aussi, font partie des valeurs fondamentales érigées depuis tout temps. Donc être loyal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il advienne, notre parole, nos paroles et nos actes sont en cohérence. Donc c'est-à-dire que je suis loyal envers toi, ça veut dire que quoi qu'il advienne, quand je t'ai dit que je ferai cette chose-là, je le ferai. Donc dans un futur plus ou moins proche, je tiendrai ma parole, donc je serai loyal envers toi. Donc si on regarde bien dans ces codes de la chevalerie, qui sont hérités, parce que chevalerie, dit chevalier, sont hérités aussi de tout ce qu'on peut amener en termes de littérature, de notre base en fait, parce que n'oublions pas notre base franco-française, c'est pour ça que je parle aussi de code de valeur et que ça a du sens, voilà, d'en parler en France, voilà, et que ça en aurait peut-être un peu moins dans un autre pays du monde, voilà, qui n'aurait pas la même histoire. Nous, on a une base moyenâgeuse, on a du Charlemagne, pour n'en citer qu'un ou qu'une, et quelque part, on va avoir aussi de manière littéraire cette fable, ce mythe des chevaliers de la table ronde. Voilà. Donc, la table ronde, le roi Arthur, voilà. Et si on prend Alexandre Dumas, on va avoir les trois mousquetaires, on va avoir D'Artagnan, on va avoir toute cette mythologie, voilà, qui amène ces idées galvanisantes, parce que ça galvanise, ça donne une direction, voilà, aux choses. Et gardez en tête que à cette époque-là, ces valeurs-là étaient sinon plus importantes que les règles imposées par la religion. Voilà, il faut garder ça en tête, même si dans l'exemple, voilà, des chevaliers de la table ronde, etc., tout est lié à la quête du Graal, et que c'est quand même infusé de mythes catholiques, voilà, du catholicisme, mais si on regarde bien, ça peut fonctionner sans ces règles, sans ces mythes catholiques à la base du Saint Graal. C'est-à-dire que si on prend juste l'histoire du roi Arthur à côté, ou si on pousse un peu plus avec les Trois Mousquetaires et ainsi de suite, ou le Comte de Monte Cristo, voilà, si on réfléchit bien, il y a vraiment ces choses-là qui sont de l'ordre de l'honneur, du courage et la loyauté. Voilà, honneur, courage, loyauté. Si on fait le résumé de nos sociétés actuelles, on n'a plus, de manière littéraire, de manière, parce que ce qui a pris le relais aussi, c'est le cinéma, nous n'avons plus de figure. Et même dans le gouvernement, il n'y a plus rien qui représente l'honneur. Voilà, parce que regardez, prenez les derniers exemples. Qui dans notre société peut représenter l'honneur? Non, il n'y a rien. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il y avait un déshonneur, attention. Donc je dis honneur, nous n'avons pas de figure, nous n'avons pas de mythe récent qui peut témoigner de ce qu'est la notion d'honneur. Voilà. Le courage, voilà. Donc je reste dans l'exemple franco-français. Le courage, on peut dire qu'on est plutôt dans une absence de courage. Voilà. Donc c'est-à-dire que le courage est lié à la notion d'effort dans le temps, et si on regarde ce que nous disent nos gouvernements, que ce soit par les multiples fluctuations sociétaires, que ce soit du Covid, du terrorisme, de la crise de la géopolitique ou autre, ou même du fait divers, on entend des dénonciations, mais à aucun moment une prise de position. Donc ça veut dire que en termes de courage, l'encéphalogramme n'est pas plat, il est même négatif. Voilà. Donc du courage, il n'y en a pas. Par contre, ces mêmes personnes vont essayer de galvaniser les citoyens sans qu'il y ait honneur et sans qu'il y ait courage sur ces notions de loyauté. Donc, en gros, c'est compliqué. Nous tenons un double discours, mais soyez loyaux envers le gouvernement. C'est pour ça que sur ces trois piliers-là, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc là, je fais une petite dérive à ce niveau-là. Sur ces trois significations. On pourrait faire un parallèle également si on regarde un petit peu qu'ils aient tort ou raison, peu importe. Donc, mais si on prend tous les micro-mouvements, tous ces mouvements réactionnaires, donc on va pas à nouveau les citer, mais si on regarde bien, un pays comme la France va avoir comme valeur sur son drapeau, dans la législation, c'est même la tradition française en elle-même, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc trois notions. Donc si on regarde bien, on peut pas dire qu'on est, sous un régime autoritaire. On a tendance à s'éloigner un peu plus chaque jour, comme je l'avais dit dans le précédent épisode, de la notion même de liberté. Voilà. Mais on va dire que c'est la notion qui est encore la plus existante des trois. Donc liberté, pourquoi pas. Égalité, pas du tout. Parce que, quelque part, l'égalité des chances n'existe pas, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire au niveau de l'éducation, etc. Donnez-moi un exemple, parce que j'en veux un vrai, hein. Donnez-moi un exemple, moi je suis preneur parce que je n'en ai pas, et alors j'ai même pas besoin d'aller les chercher, et donnez-moi un exemple de quelqu'un qui est issu du prolétariat et qui a fini à un haut poste dans le gouvernement. Donnez-moi un exemple. Voilà, j'ai dit un haut poste et sur la durée, et reconnu pour ça. Parce qu'on pourrait citer Bernard Tapie. Bernard Tapie, ça n'a pas duré longtemps. On l'a évincé. Voilà, donc je vous invite à regarder, pour ceux qui ont la flemme d'aller chercher des infos, regardez la série Netflix. Elle est plutôt bien faite à ce niveau-là. Donc, sur le côté politique de la chose. Donc, l'égalité des chances, c'est faux. C'est archi faux. Donc, on va dire que globalement, vous êtes issu d'un milieu privilégié, vous resterez dans un milieu privilégié, sauf contre-événement, voilà. Donc, contre-événement négatif. Vous êtes issu de la classe ouvrière, tout ce que vous pouvez espérer au maximum, c'est atteindre la classe moyenne. Vous êtes dans la classe moyenne, tout ce que vous pouvez atteindre, c'est le plafond de verre au-dessus de la classe moyenne, mais vous ne rentrerez pas dans les hautes sphères. C'est faux. Voilà, parce que le système est voulu comme ça. Donc, à la question, est-ce qu'on est encore dans une lutte de classe ? Oui, sauf que ce qui est plutôt malin, c'est qu'on a réussi à mettre en place un dispositif où on ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc, on a une énorme classe moyenne avec une petite classe supérieure bourgeoisie et une classe ouvrière très très pauvre. Voilà ce qu'on a en fait. Voilà. Mais en fait, comme on a une énorme classe moyenne et qu'il y a différentes strates dans cette classe moyenne, on a l'illusion en fait d'une égalité des chances, il n'y en a pas. Voilà. Donc, ensuite, égalité à d'autres niveaux, ben non plus, parce que comme je vous le disais, sinon certains mouvements ne passeraient pas leur temps dans la rue à gueuler s'il y a une réelle égalité. Alors certains me diront, mais non, mais ils parlent d'équité, enfin peu importe, on s'en fout. Donc liberté, égalité et fraternité. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans la fraternité. J'ai pas l'impression qu'on soit dans le fraternel, si vous voyez ce que je veux dire, les trois quarts du temps. Je pense qu'on se supporte les uns les autres. Voilà, on est civilisé, mais on n'est pas fraternel. Faut arrêter les conneries. Et surtout pas en France. Voilà. Donc, c'était bien de faire le constat sur ces notions de valeur. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un code de valeur ? Et pourquoi j'ai commencé aussi ce podcast avec cet extrait de l'introduction de Mad Max 2 ? Parce qu'elle est révélatrice, en fait, à plein de niveaux. C'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué dans les précédents volumes, et je ne suis pas le seul à le penser, alors moi, j'ai parlé de mon cas de figure personnel, j'ai l'impression que d'avoir été sous perfusion d'une sociopathe pendant 3 ans, que je n'ai pas vu le changement sociétaire qui s'opérait. Par moment, j'en ai discuté avec un pote dernièrement, et lui m'a dit pareil, il me dit j'ai pas l'impression, et comme j'avais essayé de l'expliquer avec le Covid, je pense que le Covid a été un accélérateur, une sorte d'incubateur de cet état de fait actuel. Et effectivement, quand on prend l'introduction du Mad Max 2 de George Miller, qui indépendamment de ce que je vais raconter est un film, un film culte, là pour le coup c'en est un, un monument de l'histoire du cinéma, qui a défini un genre tout entier, c'est-à-dire que si George Miller ne fait pas de Mad Max 2, vous n'avez pas vos The Last of Us, vos Walking Dead, tout l'univers post-apocalyptique n'existerait pas, c'est lui qui a inventé ça. Donc rien que pour ça, le film est culte. Et donc, dans cette introduction, on explique que tel un héros de western, Max Rokatansky, parce que c'est son nom, est un survivant d'une époque oubliée et que dans le chaos ambiant, voilà, il a mis de côté son code de valeur pour survivre, et c'est dans ce chaos-là qu'il va réapprendre à vivre, voilà, au contact des autres, et revenir à son code de valeur, qui est quasiment celui de la chevalerie, celui que j'ai expliqué, qui était l'honneur, le courage et la loyauté, en fait. Voilà. Donc, c'était bien de le mettre en exergue, voilà, dès le départ. Et déjà, ça permet de mettre un peu de culture qui est autre, là où toutes les œuvres que j'affectionne sont récupérées par les masculinistes, et ça me gave, je l'ai déjà dit, notamment par rapport à la quadrilogie Matrix, et ainsi de suite, Fight Club, et j'ai même entendu, tellement ils y comprennent rien, ils récupèrent même du Bret Easton Ellis, c'est-à-dire qu'ils sont tellement teubés, qui vont récupérer l'adaptation cinématographique American Psycho, voilà, en omettant le fait que ça vient de Bret Easton Ellis, enfin bref. Donc voilà, donc du coup je me dépêche, entre guillemets, de placer Mad Max 2 avant que ça soit réutilisé dans une autre direction. Voilà, donc moi ça permettait d'illustrer ce propos-là, et effectivement, alors, c'est pas pour me la raconter, je suis pas un chevalier des temps modernes, hein, mais quelque part, dans cet acte qui est le mien de partager avec vous, voilà, donc vous, je ne sais pas combien vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, voilà, les trois quarts du temps, mais je fais ce parti pris, je prends le micro pour essayer, quelque part, dans le chaos ambiant, parce que c'est une certaine forme de cacophonie, de chaos, de dégénérescence, et dans ce constat actuel, j'essaye d'y remettre du sens et de réinstaurer certaines valeurs qui méritent de l'être. Parce que pour survivre dans une société comme la nôtre, alors quand vous entendez ça, vous dites, oh, certains et certaines qui vivent dans des coins reculés ne savent pas de quoi je parle, mais quand on voit la violence, parce que c'est de la violence, hein, quand on voit la violence du monde professionnel, notamment celui, par exemple, d'un indépendant, voilà, qui est mon cas, et qui est le cas d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs. Quand on voit la violence, et quelle est cette violence, c'est-à-dire cette compétition en termes tarifaires, là où tout augmente, nous ne pouvons pas augmenter nos prix, donc ça veut dire qu'on voit nos marges diminuer, on a des contrats qui sautent, ça veut dire que le lendemain, on n'a plus rien. Donc il y a de la violence, donc il faut redoubler d'efforts. Ce rapport entre l'offre et la demande sur ces règles de marché, sur ces règles de marché financier, sont exactement les mêmes maintenant dans les relations hommes-femmes, où il y a de la violence, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas compris les règles du jeu et qui ne déploient pas, on veut dire, l'effort nécessaire, sont les laissés pour compte. Voilà. Donc, effectivement, il y a de la violence. Il y a de la violence à tous les niveaux, parce que le libéralisme amène cela. Et en absence de règles, en absence de direction, en absence de code de valeur, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, rien. Voilà, rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, rien ? Ça veut dire qu'au niveau professionnel, c'est peut-être multiplier les bullshit jobs ou les contrats à la con pour faire de la thune, mais on n'en ressent rien. Et dans les relations, c'est multiplier, voilà. Comme, on va faire une petite référence à Demolition Man, les échanges de fluides qui ne mèneront à rien. Voilà. Sûrement pas une naissance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, dans Capharnaüm, dans ce brouhaha où ce qui prédomine, c'est la pleurniche, parce que quelque part, ce qu'on entend souvent, c'est que bah, mais si c'est comme ça, c'est pas notre faute. Ben, tout ça, je l'ai déjà dit. Ben si, c'est votre faute. Si je vous donne un exemple, prenons un exemple télévisuel. Tiens, parlons du cas Hanouna dernièrement. Si Hanouna vous gonfle, arrêtez de le regarder. Eh oui, l'audience, elle tombe pas du ciel. Voilà. Donc du moment qu'on en parle, du moment qu'on le relaie, du moment qu'on zappe, du moment qu'on tombe, eh bien on fait quand même de l'audience. Donc vous voulez pas. Donc généralement, ce qui ne marche pas, du coup disparaît. C'est comme ça que ça se passe. Quand ça ne fait pas d'audience, quand ça ne rapporte pas d'argent, ben ça s'arrête. Voilà, ben c'est pas le cas. Donc que ça soit même dans le contexte des relations hommes-femmes, Oui, vous trouvez ça, affligeant. Il y a plein de mèmes hein, qui passent là-dessus, hein, sur le pauvre homme actuel qui n'arrive pas à pécho sur Tinder. Eh ben, ne te mets pas sur Tinder. Qu'est-ce que t'y fous dessus? Le problème, pourquoi on y est, parce que ça, on va y venir aussi, c'est dans une société où plus rien n'a de sens. Mais ce qui importe, c'est l'ego personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pense en tant qu'individu, mais pas comme... on ne pense pas en tant que couple, on ne pense pas en tant que famille, on ne pense pas en tant que groupe, on ne pense pas en tant que pays, on passe en tant qu'individu consommateur. Et on va dire que qu'est-ce qu'a exacerbé notre société de consommation? Elle a développé avec abondance la dépendance affective. Et qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? C'est attendre d'une autre personne qu'elle comble nos désirs. Voilà. Et qu'elle nous répare. Voilà, c'est ça la dépendance affective. Donc beaucoup, beaucoup d'hommes ne savent pas être seuls. Donc beaucoup d'hommes, et même, alors, je vais prendre un autre exemple, que ça soit des femmes qui ont partagé ma vie ou des simples rencontres de manière générale, mesdames, vous avez peur du silence. Voilà, ça je vous le dis, trois quarts du temps. Voilà, donc c'est-à-dire que la télé, voilà, est la personne qui vous manque. Donc c'est-à-dire que si on coupe tout, s'il y a du silence, et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit. Ou, à l'inverse, on multiplie les activités. Voilà, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, ça j'ai pu le constater. Donc vous allez me dire, mais toi tu multiplies les activités. Oui, mais alors moi je sais pourquoi je les multiplie. Il y en a certaines, et certains ils savent pas pourquoi ils les multiplient. Bizarrement, quand ils s'arrêtent de les multiplier, ils se posent et ils chialent. Et ils chialent sur quoi? Sur le fait qu'ils sont seuls. Donc multiplier les activités, ça permet de pas réfléchir. Voilà. Comme certains boivent de l'alcool pour pas réfléchir, comme certains se droguent pour pas réfléchir. Mais moi je vous inviterai à réfléchir. Je vous inviterai à faire face. À faire face au silence. C'est ce qu'on appelle aussi, dans d'autres cultures, la méditation. Je veux dire, vraiment, quelque part, si certains peuples l'ont érigé comme une doctrine, comme une valeur, on y revient, la méditation, c'est peut-être parce qu'elle a des vertus. Et c'est vrai que moi, les trois quarts du temps, je suis comme vous. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, je doute. Voilà. Donc, dans mes valeurs, par exemple, dans mon code de valeurs personnelles, j'y inclus le doute. Le doute me permet d'être moins con. Parce qu'il n'y a que les cons qui doutent pas. Vous voyez? Donc j'avais déjà pris cet exemple-là. C'est-à-dire que un fanatique prend les dires de quelqu'un d'autre à la lettre et va se faire exploser sur les dires de quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui ne doute pas. Donc je vous laisse imaginer le résultat. Donc effectivement, moi j'inclus dans mon mode de vie le doute. Ce doute me permet de recalibrer certaines situations, mais après j'en viens à une conclusion. Oui, effectivement, j'en viens à une conclusion. Donc, comme vous, je doute. Ça m'arrive tout le temps, que ça soit au niveau professionnel, j'ai mes propres peurs. Voilà, qu'est-ce que c'est que mes peurs? La peur que dans un mois, ça rentre pas en termes de financier. Mais je discute avec moi-même. Et je me rebooste. Et j'ai d'autres valeurs, et j'ai d'autres choses au quotidien qui me permettent de rebooster cette foi en l'avenir et à pas tomber dans des projections autoréalisatrices. C'est-à-dire, à force de se dire que l'avenir va être merdique, il le sera. Donc, d'amener un peu de positivisme. Donc, par exemple, je l'avais dit dans le précédent épisode, le sport est un bon régulateur. Voilà. Tant au niveau psychologique que physique. Voilà. Ça a plus, c'est vraiment le truc qui a le plus de vertu. Donc, le sport permet à la fois de se dépenser, de se défouler, de se maintenir et même de faire le point et de réfléchir. Voilà. Donc, moi, ça m'arrive souvent dans une séance. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Là, avant de faire ce podcast-là, j'ai fait une séance d'une heure et je réfléchissais un petit peu à l'articulation de ce que j'allais raconter derrière. Voilà, ça permet plein de choses. Ça permet de méditer sur des événements qui sont arrivés la veille, qui vont arriver dans le futur. Donc, le sport permet tout ça, en fait. Voilà. Le sport et aussi des activités que vous allez faire, vous, de votre côté, qui vont redonner, qui vont rebooster votre ego. Donc, je vous donne un exemple. Apprendre à jouer d'un instrument de musique tout seul, voilà, tout seul ou toute seule, vous amènera une plus grande satisfaction que regarder un film, en fait, ou lire un livre. Voilà. Donc, réaliser quelque chose soi-même pour soi-même, ça amène, en fait, de la satisfaction, ça redore votre ego. Un autre exemple, le bricolage. Voilà, ça, c'est un, je l'avais dit, hein, c'est un scandale. Hein. Dans les rares choses que mon père m'a apprises, voilà, parce qu'il n'a pas fait que de la merde, hein, il a fait des bonnes choses aussi. Donc, effectivement, le bricolage, moi, j'avais toujours dit, ce que j'aime avec le bricolage, déjà, ça me permet de me focaliser sur quelque chose. Et ce quelque chose, il y a un résultat en fin de journée. Donc, j'ai imaginé quelque chose, ça prend forme dans le réel et j'obtiens un taux de satisfaction. Voilà, donc il y a plein de choses, voilà, qui vont vous permettre, on va dire, de régler ces problématiques-là. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse sur on va dire, ce côté dépendance affective qui est un vrai problème de société. Hein. Voilà, c'est un vrai problème de société. Donc en préambule, vous avez vu que les parties sont assez équilibrées, non? Oui, bon, vous avez bien compris que c'est une petite vanne. Hein. Donc en préambule, j'avais parlé de trois axes. Donc là, je vais parler par exemple du code de valeur en amitié. Donc dans le code de valeur, vous y mettez tout ce qui vous est propre. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais y mettre de l'honneur, du courage, de la loyauté. Et je vais y mettre aussi la rigueur et l'effort, en fait, cette notion d'effort. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça soit en amitié, que ça soit dans l'éducation d'un enfant, ou que ça soit dans une relation amoureuse, ce qui fait défaut aujourd'hui, ou en tout cas, ce qui fait que beaucoup de couples se séparent, ou que y a des problématiques, ça va être la notion d'effort. Voilà. L'effort n'est jamais fourni de la même manière par les uns et les autres. Voilà, c'est ça. Donc, moi, si je regarde mon cas personnel, que ça soit sur les quatre relations longues que j'ai eues, qui ont différentes durées, mais peu importe, ce qui a toujours fait défaut là-dedans, c'est la notion d'effort. Voilà. Et même moi, dans certaines relations, j'ai moins fourni d'efforts, notamment sur la dernière. Je n'étais pas amoureux, par exemple, donc je faisais moins d'efforts, elle en faisait plus. Voilà. Et donc, j'ai eu quand même l'honnêteté, après moi, ça me regarde, j'ai eu l'honnêteté, parce que moi, j'ai mon propre code de valeur, de lui expliquer et de mettre fin à la relation. Voilà. Parce que même si elle était jolie, adorable et qu'elle avait énormément de qualités, j'ai essayé, je ne suis pas tombé amoureux, donc mon code de valeur étant le courage, ben, le courage de le lui dire et de mettre fin à la relation et d'affronter la solitude seule, voilà, ben, oui, la solitude seule, pléonasme, donc d'affronter la solitude, ça ne me pose pas de problème, voilà, parce que j'ai ces valeurs-là. J'en ai eu peut-être un peu moins par le passé, comme vous le verrez dans le livre qui va sortir, et dans ce que j'avais dit dans le volume 1, où, tombant amoureux d'une autre personne, j'ai quitté très rapidement une autre. Bon, ben voilà. Donc, mais le temps permet aussi, chaque événement d'une vie, positif ou négatif, permet aussi de rééquilibrer les choses et de ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. Donc, en amitié, par exemple, les valeurs qui vont être importantes, qui sont toujours les mêmes que je vous ai citées, hein, vont passer par un relationnel qui peut être basé sur l'échange, voilà, parce que c'est-à-dire une discussion. Voilà, quand on aime bien passer du temps avec un ami ou une amie, c'est qu'on va avoir les mêmes centres d'intérêt. On est à peu près sur la même longueur d'onde, ou des fois, on a des idées différentes, mais qui sont complémentaires. Mais l'échange est intéressant, c'est-à-dire que chacune ou chacun des participants est nourri par l'autre, en fait. Voilà, c'est pas une discussion de sourds. Voilà. Donc, effectivement, moi, ce qui va être important en amitié, c'est que la personne soit loyale avec moi, par exemple. Et qu'elle est... Alors après, sur ce code, moi, qui est le mien, j'espère que, en tout cas, de l'autre côté, c'est le même. Aujourd'hui, je m'évertue à ce que ça soit le même. Et les trois quarts du temps, on remarquera que c'est pas le cas. Voilà. Mais après, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas le cas non plus en amour. Voilà. Je suis autant déçu, mais ça n'a pas les mêmes conséquences, heureusement. Voilà. Être déçu par un collègue un ami, une connaissance, c'est pas la même chose que quand on a investi du temps, de l'argent et qu'on a construit des choses avec une personne qui partage notre quotidien dans lequel on se projetait dans le futur. C'est pas le même délire. Voilà. Donc, les amis, généralement, bon, en amitié, je suis autant déçu qu'en amour. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux. Les gens parlent, mais quand on regarde ce qu'ils font, ils font pas beaucoup de choses. Donc déjà, il n'y a pas de cohérence entre leurs actes et les faits. Voilà. Donc généralement, les gens, moi, ça m'arrive de passer énormément de temps à discuter avec des gens, parce que des fois, ils me demandent des conseils. Alors des fois, j'en donne, ils l'ont pas demandé, ça je peux comprendre. Quand on n'a pas demandé un conseil, ben, on le fout à la poubelle. Des fois, quand on demande un conseil, puis on se rend compte qu'ils appliquent jamais, en fait. Voilà. Mais après, je suis pas non plus, parce qu'on pourrait regarder ça, j'y ai pensé. Vous voyez, je fais intervenir aussi le doute. C'est vrai que moi, à ériger des codes et qui sont pour moi propres à moi-même et que j'estime être presque généraliste, on pourrait me considérer comme une forme de dictateur, parce que je voudrais imposer quoi que ce soit. Moi, j'impose rien, je vous dis ce qui fonctionne. Moi, en tout cas, pour moi, ce qui fonctionne. Donc, effectivement... quand je regarde moi ce qui fonctionne et je me dis tiens je suis passé par là, cette personne passe par là, ben, ça a fonctionné pour moi, j'avais fait des recherches sur des livres, sur des expériences dans le réel, etc. Donc j'ai fait ce truc là, je me suis dit bon je te le partage, ah ouais ouais c'est génial, et puis en fait tu te rends compte que la personne refait à chaque fois les mêmes erreurs. Bon, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Enfin, moi, j'ai plus de temps à perdre. Voilà, ben, c'est ça aussi. Moi, il y a une notion, comme je l'avais déjà expliqué dernièrement, la notion qui est importante pour moi aujourd'hui, c'est le temps. Voilà. Donc, je donne un exemple. Après, c'est pas une dédicace, hein, mais quand, par exemple, je vais passer du temps, alors du temps, c'est pas des heures, hein, que ça soit 2 minutes ou autre, mais quand j'accorde du temps, par exemple, à une femme, que ça soit par un message ou autre, c'est parce que il y a quelque chose qui va m'intéresser. Donc, mais ça, de l'autre côté, alors c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat, de l'autre côté, forcément, comme c'est une femme qui me plaît, forcément, elle plaît à beaucoup, donc elle n'aura pas, on va dire, le discernement, la nuit, voilà, l'intelligence du moment de comprendre qui est plus important qu'un autre. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est ce que j'expliquais souvent, et à vous mesdames, et notamment à ces femmes dont je parle, je disais voilà, moi j'ai pris de mon temps, ce temps-là pour moi il est précieux parce que j'aurais pu faire autre chose, voilà. Donc, et quand je dis autre chose, voilà, donc souvent, vous allez vous dire que, putain, quand on l'écoute, le mec il a la grosse tête. Oui, parce que moi, quand je fais pas ça, je suis pas en train de jouer à la PlayStation en caleçon avec un bol de céréales, hein, ou en train de me taper une queue sur un porno, si vous voyez ce que je veux dire. Je fais 1000 choses, j'ai 1000 choses de plus intéressantes à faire, donc le minimum de la branlouse pour moi, on va dire, c'est lire un bouquin, ou regarder un film, ça c'est le minimum de la branlouse pour moi, et encore j'ai sélectionné le film, parce que j'ai envie qu'il m'apporte quelque chose, etc. Donc voilà, donc effectivement, si je passe 2 minutes ou un quart d'heure de ce temps-là à échanger et qu'on m'envoie des banalités, voilà, bah, faut pas s'étonner que derrière, je donne pas suite. C'est un exemple, voilà. Après, ça peut être pris pour du mépris ou autre, c'est non. C'est juste qu'à un moment donné, faut avoir le niveau derrière. Et c'est ça aussi. Et en amitié, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est... parce qu'on peut dire souvent que l'ensemble de notre entourage reflète la personne qu'on est. Donc, effectivement, aujourd'hui, je fais attention aussi... maintenant, aux gens qui m'entourent, voilà, donc, voilà, comme j'estime ne pas être un bouffon, je vais pas m'entourer de bouffons, donc, j'ai un certain niveau, donc, j'estime que les gens en face de moi doivent en avoir un certain, et quand je parle de niveau, c'est pas un revenu, je parle d'un niveau intellectuel, et je cherche pas non plus, faites bien la différence, quand je parle de niveau intellectuel, je parle pas de, comme certains, de QI à 3 chiffres, ou pas, je parle de gens qui percutent, c'est-à-dire des gens qui ont leur propre culture, mais que quand on discute, ça percute. Voilà, qu'ils ne soient pas avec un regard de bovin quand je leur sens un truc. Et quand on discute, on ne va pas discuter de Socrate et de Platon. Je parle de manière générale. Donc, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens Donc j'ai l'impression aussi que ce podcast part un peu dans tous les sens. J'aime bien moi ce côté, parce que quand je faisais de la cuisine, notamment de la pâtisserie, j'aimais bien un certain type de gâteau, celui qu'on appelle le gâteau des boulangers, le pudding, hein, c'est un amalgame de plein de choses, mais voilà, on en est là avec cet épisode. Mais voilà, souvent les gens, quand ils parlent d'intelligence, font pas le distinguo entre l'intelligence des cours, le côté nerds du truc, et l'intelligence sociale. Moi, je m'entends mieux avec des gens qui ont une intelligence sociale. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément des postes à haute responsabilité. On peut trouver, moi, ce que j'appelle des demeurés, parce qu'il y en a plein, dans les hautes sphères. Donc, voilà, vous pouvez prendre des exemples dans le gouvernement, dans vos hiérarchies. Il y en a, c'est les demeurés, relationnellement parlant, c'est les teubés. Voilà. Donc, et pourtant, ils ont un master ou des bacs plus 12 ou j'en sais rien. Vous voyez, mais et pour la somme des débiles, pour eux, ça, c'est l'intelligence. Comme pour eux, l'intelligence va être un Éric Zemmour qui va leur parler d'un livre. Comme ils sont illettrés, le fait que lui connaisse un livre et qu'il soit un sophiste, qu'il sache manier la langue, eh ben, pour les crétins, c'est le roi des cons, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, oui, alors, vous m'avez déjà entendu taper, alors je vais le redire, pour moi, c'est tous les mêmes, tous. Il n'y en a aucun. Donc, si vous me demandiez mon avis, voilà, admettons, moi, je souhaite qu'il y ait l'embrasement, en fait. Moi, il faut que ça dégage. Voilà, la 5e République, ça fait trop longtemps qu'elle est là, il faut que ça dégage. Donc, tout ça, ça doit être remis à niveau. Donc, voilà. Donc, il n'y en a pas un, pour moi, pour sauver l'autre. C'est tous les mêmes, ils viennent du même endroit. C'est la même base, et la base, elle est pourrie. Voilà. Donc, mais pour revenir à cette chose-là, donc oui, en amitié, pour moi, ce qui va être important, voilà, c'est que la personne, elle percute comme en amour. Quelque part, moi, je vais passer commande, la femme parfaite, elle a ses spécificités, pour moi, le côté parfait, mais il faut qu'elle percute à son niveau de la même manière que moi, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du répondant, faut qu'à un moment donné, ça mouline, mais par contre, à l'avenir, je ferai un distinguo entre sociopathie et intelligence sociale, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ces petits distinguos qui me manquaient jusqu'à présent. Donc, voilà, en amitié, ce qui va être important, c'est cet échange. Voilà. Si on part sur le côté éducation, dans ce que je transmets, par exemple, à ma fille, ce que vous allez transmettre, ou ce que vous transmettez à vos enfants, eh bien, ce qui est important, et c'est là où je vais faire une parenthèse qui est pour moi déterminante dans la suite des opérations et dans le contexte sociétaire actuel, c'est qu'à trop vouloir mettre en opposition les hommes et les femmes, à trop vouloir mettre en avant cette espèce de néo-féminisme qui gangrène la société, à trop en fait éloigner du coup vous mesdames de ce qui est votre particularité et votre caractéristique principale, hein, qui n'est pas la nôtre, hein, qui est de donner la vie, à trop faire ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ben on se reproduit plus. Ben oui. Et je veux dire, c'est pas moi qui le dis, hein. Je vous invite à aller regarder les chiffres, notamment en Occident, donc les chutes du taux de natalité, donc on ne se reproduit plus. Et comme je l'avais déjà dit, souvent, moi, j'entends des conneries, voilà. J'ai entendu des conneries, j'ose le dire, voilà. Donc, vous pouvez me taxer de ce que vous voulez, de réactionnaire, de rétrograde, de patriarche, patriarcal, patriarcaca, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas à moi qu'il faut faire un procès, c'est à la nature. Voilà, vous vous appelez la nature, vous la convoquez et vous lui faites un procès. Voilà, c'est pas à moi qu'il faut faire un procès. En attendant, ce qui se passe, c'est qu'on ne se reproduit plus. Et dans les conneries que j'ai entendues, moi j'ai entendu, oui, l'injonction sociétaire, nos familles, nos mères, oui, parce que ce sont nos mères, hein, voilà, t'as pas un enfant, mais moi je suis pas là pour avoir un enfant. Mais oui, mais alors sois pas là pour avoir un enfant, et t'es là pourquoi ? Voilà. Moi, je vais vous la poser la question. Voilà, on est presque à une heure d'enregistrement. Vous êtes là pourquoi ? Voilà. Et je vous invoque Tyler Durden. Vous croyez que vous êtes vos boulots ? C'est quoi votre boulot ? Vous croyez que vous êtes utile ? Voilà. Dites-moi, est-ce que vous croyez que chef de projet, c'est utile à la société ? Non. Voilà. Tous les boulots du tertiaire ne servent à rien. Voilà. Les trois quarts du temps, c'est des bullshit jobs. Je suis désolé de vous le dire, moi y compris. Voilà, je me mets dedans. Voilà. Moi, ce que je fais, ça sert à rien. Demain, tout s'arrête, je ne sers à rien, vous ne servez à rien. C'est quoi qui importe ? Voilà. Et c'est pour ça aussi, je vais vous le donner, que les gens, ils se posent pas. Ils font de multiples trucs, ils sont sur Tinder, machin, ils sont sur les trucs. Et en plus, c'est ça la névrose, hein, aujourd'hui. Ils sont sur Tinder, mais ils veulent pas quelqu'un, mais ils veulent quelqu'un, ils savent même pas pourquoi ils y sont. Donc, je vous le dis, vous n'êtes pas vos boulots. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Chuck Palahniuk qui l'a dit. On n'est pas nos jobs, en fait. On n'est pas nos boulots. Et pourquoi on n'est pas nos boulots ? Parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. Et je suis désolé de vous le dire, on est là pour quoi, en fait ? Pour transmettre. Et on transmet par quoi, d'après vous ? Pas par les ondes radio. Voilà. Donc, c'est ça, notre but. Voilà. Et je l'ai toujours dit. Alors maintenant, vous n'êtes pas d'accord, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, stérilisez-vous. Voilà. Coupez-vous les cheveux. Tournez-le comme vous voulez, ça reste le même problème. Ça restera le même problème. Parce qu'à l'heure du bilan, parce que c'est pas maintenant, voilà, l'heure du bilan, on n'y est pas. C'est pas quand vous aurez 40, 50 ans. L'heure du bilan, ça sera à 70. Quand ça sera l'heure du bilan, et que vous retournez sur votre vie, que vous serez dans un EHPAD, seul, et encore si vous avez de la chance d'être dans un EHPAD, donc vous serez dans la misère, sans personne, sans rien, voilà, posez-vous la question si ça en valait la peine. Voilà. S'il n'y avait pas une arnaque dans les sociétés actuelles. Voilà. Moi, je vous amène une lecture autre. Voilà, derrière. Donc, je ne dis pas que j'ai raison, je dis que je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi je me suis posé les bonnes questions ? Parce que toujours même référence, quand on a tout perdu, parce que c'était mon cas, quand on a tout perdu, on est enfin libre. Et quand on est enfin libre, on se pose les bonnes questions. Voilà. Donc, à quoi les questions existentielles de base, hein. Où on va ? Pourquoi ? À quoi on sert ? Quelle est la direction ? Je ne suis pas en train de vous dire aller à la synagogue, à la mosquée, ou aller à l'église, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je vous parle de la base. À quoi on sert, pourquoi on est là ? Voilà. On est là pour lever les yeux au ciel, conquérir, croître et multiplier, je l'ai toujours dit. Ce n'est que ça, en fait, la base. Vous décidez d'aller contre nature, tout ce qui vous attend à la fin, c'est la névrose, voire la psychose, la tristesse, la solitude. Voilà, c'est tout à ce niveau-là. Donc, pour continuer, donc pour rester dans le côté de l'éducation, donc effectivement, éduquer, c'est transmettre. Éduquer, c'est pas apprendre à lire, à écrire. À lire, à écrire, ça en fait partie, mais éduquer, c'est transmettre. Et c'est comme ça qu'on évite aussi de commettre les mêmes erreurs. Alors même si on va dire qu'on reste des mammifères et que quelque part on aura toujours cette rage et cette violence qui est en nous, donc il y aura toujours de la guerre quelque part, ben oui, la guerre ça disparaîtra pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc effectivement, la transmission d'un code de valeur, de règles de base, permet à la société d'évoluer correctement. Pourquoi ça part en couille aujourd'hui ? Alors, on va se le dire, je vous l'ai dit, baisse de natalité, pas de règles, absence de code, tout le monde fait tout et n'importe quoi, c'est toléré, autorisé. Voilà, c'est tout. Et on dénonce. Voilà, voilà pourquoi c'est le bordel, hein. C'est pas pour autre chose. Hein. Donc, et puis, la théorie reproductive aussi de la majorité. C'est-à-dire que, comme une certaine partie des gens vont dire « Ah bah tiens, c'est comme ça que ça se passe bah, », les gens, par identification, font la même chose en fait, sans se poser la question du pourquoi. Voilà. Donc, la liberté, elle est là aussi. Parce qu'on revenait sur... Je reviens sur la notion de liberté, qui est chère à notre patrie. La liberté, c'est de dire oui ou non. La liberté, c'est de réfléchir par soi-même. La liberté, pourquoi je disais qu'on est peut-être un peu moins libre, il me semble que dernièrement, et ça je parle par rapport au Covid, si moi, personnellement, dans l'exemple qui était le mien et qui était sûrement le vôtre, si j'estimais que moi, par mon vécu, par mon observation, si j'estimais que porter le masque voilà, dans la rue, parce que ça c'est une connerie, hein, c'était pas dangereux, c'est mon droit, c'est ma liberté, sauf qu'à ce moment-là, j'étais sanctionné, vous voyez ? Ou montré du doigt. Voilà, parce qu'il y a des gens, voilà, ils ont kiffé aussi, hein, comme en 39-45, faire limite de la délation, voilà, à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est là où on peut tester cette définition de la liberté. Voilà, donc bon, après, on n'est pas là pour faire de la philo. Donc, ce code de valeur, qui est de l'honneur, la loyauté, cette notion de courage qui est liée à l'effort, moi, c'est ce que je prodigue à mon enfant régulièrement. Régulièrement. Voilà. Donc, ça me serait facile, je vais vous donner un exemple, si à chaque difficulté qu'elle va rencontrer en cours, que je dise, bah, tu restes à la maison. Ben non. Donc, je lui apprends à aller au-delà, même si elle a peur, elle va avoir l'échec ou elle n'a pas envie. Ben, elle y va quand même, en fait. Et malgré toutes les supplications, parce que ça me fait mal au cœur, comme tout le monde, hein, voilà, et ben, je maintiens ce truc-là. Donc, elle y va. Et donc, elle apprend à gérer la notion d'effort. Voilà. Donc, on n'est pas là pour atténuer, par exemple, des mauvaises notes en n'allant pas et en ne conservant que deux notes. Ou on apprend aussi que des fois, quand on ne révise pas, on prend des cartouches. Voilà. On apprend. Il y a cette notion-là. Et moi, je maintiens ce truc-là. Donc, effectivement, et après, je discute, je mets en place. Il y a une posture. Chacun a sa place. Je lui explique les choses telles que moi, je les ai observées durant ma vie. Et durant ma vie n'est pas mon exemple que Toulouse. J'ai voyagé, j'ai vu d'autres choses, j'ai vécu dans d'autres villes de France, j'ai eu une relation, je suis riche de cette chose-là. À partir de là, je ne pars pas du principe que j'ai la science infuse, j'ai mon code de valeur, je le fais évoluer au fur et à mesure, mais généralement, il va évoluer, mais il ne va pas changer. Voilà. On va avoir des nuances, parce qu'effectivement, de temps en temps, je me trompe, et je le reconnais. Et c'est pas mal de reconnaître qu'on s'était trompé. Voilà. Donc ça m'arrive aussi, de commettre des erreurs. Voilà. Et j'en ai commises des erreurs, croyez-moi. Donc, ce code de valeur, en amour, il va être un petit peu différent, parce qu'autant, avec l'enfant, on lui transmet, et l'enfant et transmetteur plus tard à travers ses enfants de ce même code en y apportant des choses. Hein. Voilà, imaginez comme un code informatique qui serait amélioré au fur et à mesure. Bah, c'est un peu ça l'idée aussi, du code informatique, du code génétique et ainsi de suite. Donc, en amour, on dit, et ça je l'avais traité dans un autre épisode, que c'est un échange de valeurs. Voilà. Donc ça veut dire que échange de valeurs, ça peuvent être des valeurs complémentaires ou similaires. Voilà, mais en aucun cas différente, ça ne marche pas. Voilà. Et au final, cet échange de valeurs amène à une mixité du code de valeur qui débouche sur un nouveau code de valeur qui est celui du couple et qui se manifeste de par le projet global. Et le projet global va être obligatoirement des enfants, c'est sûr. Voilà. C'est comme ça qu'on aboutit à la transmission de ce code qui est celui du couple. Alors certains vont me dire, ou certaines, non, ça veut dire qu'être en couple, ça rend un enfant. Mais ça, en fait, c'est... Alors, je vous pose la question. À quoi sert le couple? Si on enlève nourrir sa dépendance affective et occuper le silence, c'est quoi le but? Passer des bons moments? Bah, des fois, il n'y en a pas des bons moments. Voilà. Donc, le couple... Alors, ça... Je vais faire une citation, parce que je ne vais pas non plus m'octroyer la paternité de quelque chose. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un autre podcasteur qui s'appelle L'Observateur qui l'a dit. Et c'est vrai que je partage, autant il y a certains points de vue, je ne suis pas d'accord, autant avec sur celui-là, je suis d'accord avec lui. Effectivement, lui, il parle de couple comme d'un état transitoire. Avant la création du projet, et le projet va être patrimoine, enfant, etc. Donc effectivement, c'est pas con, voilà. Parce que le couple en lui-même, le couple avec comme pour objectif le couple, n'est pas un projet en soi, voilà. Donc dans ce cas-là, soyez en couple avec votre chien, voilà. Donc effectivement, dans ce code de valeur en amour, moi, j'en suis le témoignage vivant et d'autres le sont. C'est pour ça aussi qu'à la base, c'est un podcast masculin qui avait un point de départ sur une relation toxique ou autre. Mais j'ai pas eu que des relations toxiques, voilà. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que je suis désolé. Alors, il y en a. Voilà, je vais pas dire le contraire. Il y en a. Voilà. Et on va me dire, mais tu les as pas rencontrés. Bon, commence à avoir mon expérience quand même. Il y en a. On est quand même à 50-50. C'est ce que j'avais fait comme... Et encore, je suis sympa, je prends les relations longues, parce que si je prenais l'ensemble des relations courtes, on serait plutôt à 25% de qualité, 75% de merde, si on voit ce que je veux dire. Donc, mais globalement, l'honneur, le courage et la loyauté, je suis désolé de vous le dire, mais alors j'ai envie de... alors attends, est-ce que je fais le constat? J'ai envie de remonter dans le temps, j'allais dire en 2023, mais je peux remonter même bien avant. C'est absent de l'autre côté. Voilà. Donc l'honneur, comme je l'avais expliqué, à la rigueur, pourquoi pas. Le courage et la loyauté, au revoir, hein, aux abonnés absents, sur le côté loyal de la chose. Hein, voilà. Donc, comme d'habitude, on va me dire, mais c'est forcément les femmes avec qui tu as été, mais c'est pas toutes les femmes. Bon, effectivement, moi j'invite certains messieurs qui m'écoutent à me contacter. Voilà, donc vous me dites hein, votre pourcentage personnel. Donc voilà, j'ai donné trois codes de valeur. Honneur, loyauté et courage. Voilà, je vous invite à me dire quel pourcentage dans les relations que vous avez connues. Voilà, et si vous avez 12 ans, ça n'a rien de m'appeler. Vous n'avez pas assez d'expérience, vous avez compris. Dites-moi, jusqu'à preuve du contraire, je pourrais faire une petite pastille en disant que, bah, effectivement, c'est peut-être que mon cas personnel, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas ça. Donc, mais effectivement, ce qui va être important dans ce code de valeur qui est mien, c'est qu'il soit partagé de l'autre côté, ou compris ou respecté. Voilà, à défaut d'être, on va dire à un moment donné, d'être similaire, au moins respecté. Mais c'est ce code de valeur qui va se mélanger à celui de l'autre personne, qui va en donner un nouveau, qui va donner la direction. Et c'est ça qui est important. Voilà, dans ce côté, code de valeur, éthique personnelle. Donc, moi, je me suis marqué sur mes notes de conclure sur la question du maintien. Eh bien oui, maintenir ces choses-là, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que ça demande un effort et ça demande de la rigueur. Voilà. Donc j'ai déjà disserté juste avant sur cette notion d'effort et de rigueur, mais effectivement c'est compliqué. Bien sûr que au quotidien, maintenir ces choses-là dans les relations professionnelles, interpersonnelles, maintenir son équilibre alimentaire, son équilibre corporel, maintenir le sport, maintenir toutes ces choses-là, c'est compliqué, c'est chiant. Voilà. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Des fois, on doute, comme je vous ai dit. On a le doute et peut-être... Moi, ça pourrait m'arriver, hein. Des fois, ça m'arrive. Je dis, peut-être que c'est moi qui me trompe et tout ça. Et qu'en fait, finalement, l'avenir des relations hommes-femmes, c'est les sites de rencontres. Et bien, quand ça passe dans mon cerveau, c'est-à-dire une fois tous les 1000 ans, et ben j'ai les frissons qui s'activent et l'ego qui repart, et à un moment donné ça me donne l'information que non, en fait. Donc effectivement, si on ne veut pas tendre vers l'effondrement, parce que des systèmes relationnels, donc c'est-à-dire que ça soit amicaux, parentaux ou amoureux, si on ne maintient pas un code, une éthique personnelle, des valeurs qui nous sont propres, oui, on ira vers l'effondrement, c'est clair et certain. On a déjà un pied on va dire, le chaos aujourd'hui, mais ce qui est intéressant avec le chaos, c'est que le chaos est propice aussi à la création, à la construction. Le chaos, c'est pas que la destruction. On pourrait prendre pour analogie l'anarchie. Parce que souvent, les gens, ils disent « t'es anarchiste ». Pas sur moi, mais quand j'ai pu entendre ces phrases-là. Mais l'anarchie n'est pas le chaos. L'anarchie, c'est remettre en cause l'ordre établi. Mais c'est pour proposer autre chose. Donc voilà. Donc effectivement, le chaos est source de désordre. On perd nos repères, les repères sont fluctuants, mais va amener soit une destruction totale, soit une reconstruction. Comme nous sommes des mammifères qui raisonnent, voilà, c'est la particularité de l'homme au sens humain de la chose, comme c'est sa particularité, il a toujours su survivre. La preuve en est, on est là. On a survécu aux guerres, on a survécu à des changements climatiques, on a survécu à beaucoup de choses. Donc nous survivrons à cet état de dégénérescence sociétaire actuelle. Preuve en est, beaucoup de gens écrivent là-dessus, prennent le micro, hommes et femmes, réfléchissent sur ces choses-là, et on arrive souvent à des formes de ras-le-bol, de rejet de certaines idéologies importées ou promulguées par des groupes plus ou moins bien pensants, on va dire. Vous voyez, j'ai mis les plots d'usage. Donc effectivement, le code de valeur est important. Voilà, donc pas besoin de disserter trop longtemps non plus, faut que ça soit digeste aussi à l'écoute. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti vu que j'avais marqué trois lignes sur le papier et que ça m'a pris comme une envie de pisser de faire cet épisode. Donc effectivement, j'avais envie dans cet entre-deux-faites de parler voilà, de code de valeur et d'éthique personnelle et une bonne fois pour toutes aussi de dire bah, que oui, la médiocrité n'est pas non plus une fatalité. Donc on peut très bien eh ben, se motiver, se créer son propre code de valeur, s'y tenir et réaliser des choses personnelles qui vont nous satisfaire et du coup nous éviter d'être un rageux ou une rageuse, ce qui m'évitera à moi de vous envoyer des petits allers-retours verbaux quand je vous croise en soirée ou dans des contextes familiaux ou autres. Voilà. La médiocrité n'est pas une fatalité. Donc faut arrêter la pleurniche et à un moment donné on est maître de son destin, c'est pas les autres qui maîtrisent votre destin et c'est valable pour la dépendance affective aussi, vous êtes maître de votre destin, donc vous pouvez à tout moment utiliser votre temps de solitude pour le mettre à contribution vers autre chose. Voilà. Donc moi dans le cas qui était le mien par rapport à ma relation toxique, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle une croissance post-traumatique et de développer mon plein potentiel. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, oui, disons-lui merci. Je lui dis merci quelque part. Donc, mais gardez en tête que voilà, je vais le redire une troisième fois, la médiocrité n'est pas une fatalité. Donc, à vous, messieurs, mesdames, de vous mettre un coup de pied au cul et de devenir la meilleure personne possible. Voilà, je ne pouvais pas vous dire mieux. Donc, eh ben, je vous avais souhaité un joyeux Noël dans l'épisode précédent. Et bien là, je vous souhaite de passer un bon réveillon, donc un bon réveillon du 31. Et bien, je vais changer aussi la manière de conclure cet épisode de Chronique d'un Quadra. Donc, à Chronique d'un Quadra, on a l'habitude de décomplexer les sujets complexes, mais on n'oublie pas aussi qu'à Chronique d'un Quadra, on a 2024 dans le viseur, et on serre les rangs et on maintient. Merci pour votre écoute.
Niggas a kill for a couple bits. Was grinding hard and made 100 bins. Like I went viral, got 100 fits. Bossing on them, couple jewels, got me flossing on them. Really coming from the mud on them. Every flesh put the slug on them. Couple of hitters a kill for whatever. Just for the paper, she doing whatever. Now I'm feeling better. But if I was locked, she probably would send a letter. Got it on me, moving militant. No time for the middle man. Clip a nigga, got a moonwalk. Got real shooters and they ain't talking. Just do it, nigga, shit, I'm tired of talking. Got the ghost, I was tired of walking. Dope, got a niggas on me walking. Tryna have my mama walking, I'm a smooth nigga. Ride around my two nigga. Lay back, being boo nigga. Couple fool niggas ain't cool nigga.
Joker said that you did your head. 4-5 pass, shoot the right here. 4-5 pass, shoot the right here. 4-5 pass, shoot the right here. You be Joker said that you did your head. 4-5 pass, shoot the right here.
Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.
C'était Chronique d'un Quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.